Salut, c'est Charlène et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hiring Stories Podcast. Salut Mathieu.
Hello Charlène.
Je suis super contente de t'accueillir dans le podcast, Mathieu, parce que pour la petite mise en contexte, Mathieu et moi, on a jasé il y a quelques semaines, deux semaines, trois semaines peut-être, on a fait un peu plus connaissance, puis j'ai eu de beaux atomes crochus avec toi, j'aime beaucoup que j'ai vu de la personne, et puis c'est là qu'on s'est dit, tiens, si on faisait un podcast ensemble, et que voilà, on fait un podcast ensemble. Et c'est la première fois pour toi, Mathieu, si je comprends bien?
Absolument, effectivement, on avait bien accroché hein, il y a quelques semaines pour discuter, on avait été assez bavards tous les deux, je me rappelle, et effectivement ça faisait du sens du coup de discuter un peu plus amplement sur certains sujets, et donc ouais, je suis ravi moi aussi de discuter avec toi aujourd'hui dans ce podcast, Charline.
Bah alors, on va essayer de commencer par l'épisode, par découvrir un peu plus qui est Mathieu, je vais essayer de faire comme si je n'avais pas stalké ton profil LinkedIn. Donc, qui est-ce que tu es, Mathieu? Puis comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le recrutement? Parce que si je comprends bien, le recrutement n'a pas été le chemin tout tracé dès le départ. Il y a eu un cheminement de ta part, ça a toujours été dans l'équation. Mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Qui tu es? D'où tu viens? Et qu'est-ce que tu fais? Ça fait beaucoup de questions, ouais. Mais vas-y.
Oui, absolument, avec plaisir. Alors, pour le faire très simple, ça fait quand même 7 ans que je recrute principalement dans l'IT, dans la tech, et en fait, en y réfléchissant, c'était en juin 2014 que j'ai fait mes premiers pas en tant que stagiaire dans le recrutement, et même si j'évoluais dans plein d'environnements différents, que ce soit des éditeurs de logiciels, des sociétés de services, des cabinets de recrutement, en freelance, pour des startups, des scale-up, des grands groupes en France et à l'international, c'était toujours dans le recrutement, et toujours dans le recrutement tech, finalement. C'est clair que ma façon de faire ce métier, elle a beaucoup évolué hein, au cours de ces 7 dernières années. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu dès le départ, peut-être pour l'historique sur ma formation initiale. Moi, j'ai fait un master école de commerce dans les ressources humaines. Et en fait, dès le départ, premier stage, je me suis orienté dans le recrutement. Ça m'a beaucoup plu. Et là où beaucoup voient le recrutement comme une porte d'entrée vers d'autres choses ensuite, côté ressources humaines ou d'autres fonctions. Moi, j'ai assez vite vu des perspectives d'évolution possibles, et ça m'a donné envie de creuser, très clairement. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans, et j'aime toujours autant, voire même plus, ce métier qu'au départ. Et je pense pouvoir être capable de me projeter encore quelques temps en tant que recruteur.
Ah justement, ça fait un beau lien avec ce dont on voulait discuter aujourd'hui, qui est comment on fait pour s'améliorer en continu dans le milieu du recrutement ou pour apprendre en continu. Mais on va commencer par d'abord la phase du début. Donc là, c'est là que je m'intéresse un peu plus à. T'es arrivé dans le monde du recrutement, ok, t'avais une formation académique, universitaire, t'as eu un master. Très bien, c'est des formations théoriques. Mais là, tu jumps dans le monde du recrutement. TI en plus, c'est pas le plus simple, je dis pas que le reste est facile, mais ça a des spécificités, je te dirais, techniques et de compréhension d'écosystèmes qui sont quand même majeures. Je le sais, j'ai fait le même saut que toi en 2015, moi. Qu'est-ce que tu dirais, tu te projettes, tu parles avec quelqu'un aujourd'hui, un recruteur qui fait le même move que toi, qui commence dans cette industrie-là, comment on fait quand on n'y connaît rien, non seulement en recrutement, mais aussi et surtout en tech?
Ouais. C'est plusieurs très bonnes questions qu'il faut absolument se poser, en fait, si on veut progresser, prendre du recul et avoir un regard assez éclairé sur son propre métier. Je dirais que la première chose, c'est d'être curieux. En particulier, effectivement, dans le monde de la tech, il y a énormément de choses à apprendre, à connaître, mais on peut pas tout savoir. Et ça, c'est un premier élément. Faut pas être frustré, se dire non, je connais pas tout. Faut y aller petit à petit. Et ça, c'est un deuxième élément de réponse. Faut voir ça comme un puzzle et prendre des pièces petit à petit du puzzle. Et au fur et à mesure qu'on va apprendre des notions, des langages, des concepts, ça va donner du sens à l'ensemble. Mais il faut commencer quelque part et pas se dire ok, dans 6 mois, je connais tout à l'informatique, au développement. Non, jamais en fait, parce que même les gens dont c'est le métier après des dizaines d'années d'expérience, ne savent pas tout pour l'instant. Donc, il faut commencer par quelque part, et puis après, c'est une histoire de rigueur, de discipline, de récurrence pour continuer à progresser au fur et à mesure.
Ouais, donc en fait, introspection, puis prise de recul. Ça, c'est les deux premières steps, les premiers steps, en fait. Je valide avec toi. Mais ça peut être super intimidant, hein. Tu sais, je me rappelle si je peux te faire du coude là-dessus, moi, je me rappelle quand j'ai commencé. C'est vaste, le TI, puis c'est surtout que, puis alors là, je vais essayer de pas faire de généralité, je m'excuse si vous vous sentez dérangé par ce propos-là, j'espère que ce sera pas le cas, mais moi, mon expérience de 2015, de me confronter au monde du TI, j'avais une affection particulière pour ce milieu-là, parce que je suis une gamer dans l'âme, donc j'ai quand même été un petit peu plus en contact avec le persona TI, là, la personne qui travaille en tech, mais... Ouais. Ça n'empêche que je me suis frappée des fois à un mur où ça a été des gens avec qui j'ai collaboré qui étaient très introvertis et peut-être beaucoup dans leur tête. Donc, pour rentrer dans la tête de ces gens-là, puis aller chercher de l'information et aller chercher de l'apprentissage, ça a été tough. Mais en fait, j'ai comme eu un déclic où je me suis dit, quand j'ai commencé à demander, explique-moi, j'ai besoin d'aide, j'aimerais comprendre, poser des questions claires, même aux candidats au téléphone. On dirait qu'il y a eu un déclic où je me suis rendu compte que la personne, elle changeait de mindset dans sa tête, puis là, elle donnait toute l'information, même qu'elle m'en donnait trop. Je sais pas si tu as vécu ça aussi, là.
Si, alors effectivement, et je pense en plus, moi c'est une de mes techniques pour faire mon travail de recruteur et quelque part évaluer des gens qui font des choses que je maîtrise pas. Je suis incapable de remplacer ces gens-là. Mais... Je considère, moi, j'aime beaucoup la maxime de Boileau qui dit, si je ne me trompe pas, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Et moi, j'utilise beaucoup ça pour évaluer un peu la partie pédagogique en fait de mon candidat. Je considère que s'il maîtrise bien son sujet, il est capable de le vulgariser pour que moi je puisse comprendre, même si je ne suis pas technique. J'ai une culture, j'ai un vernis, et donc je joue beaucoup là-dessus. Et effectivement, c'est aussi ce qui est intéressant, je trouve, dans ce milieu de la tech, c'est que il y a des profils très très variés. Oui, on a peut-être le cliché, je vais le dire avec des guillemets, je le fais avec les doigts, même si ça se verra pas à l'audio, mais le geek, finalement, très introverti, effectivement, pas du tout à l'aise à l'oral. Mais on a aussi des profils beaucoup plus, avec beaucoup plus d'aisance. Parfois beaucoup de chash, et ça se ressent beaucoup au moment de la négociation du salaire. mais voilà, c'est un milieu très très varié, et c'est ça que j'aime bien aussi, être capable de m'adapter, m'interfacer avec des profils très très différents. Et je pense que c'est aussi peut-être une force de mon profil aujourd'hui, d'être capable d'être à l'écoute, peut-être faire preuve d'empathie aussi avec ces différents profils et d'interagir. Et je trouve que c'est là que je trouve quand même pas mal de richesse dans ce métier de recruteur.
Ah, puis il faut pas voir ça comme... tu sais, j'en avais jasé avec un recruteur qui se lançait il y a pas longtemps, puis il me disait que pour lui, demander une explication à quelqu'un, c'était montrer qu'il ne savait pas, et c'était donc décrédibiliser lui-même, là, il se décrédibilisait, puis je lui ai dit que je trouvais que c'était l'inverse, c'était une preuve d'humilité, et de sincérité et d'authenticité qui ne se retrouvent pas forcément régulièrement dans le portrait typique du recruteur que ces candidats-là pourraient ne pas aimer là par principe. Je pense que ça casse un mur qui est essentiel à casser pour entrer justement dans une conversation totalement différente. Donc je pense que il y a beaucoup plus de positif que de négatif dans l'équation. Puis même, je dirais que si le candidat est offusqué par ça, t'as un problème, déjà.
Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, depuis le début que je fais ce métier-là, j'ai envie de sortir du cliché et de l'image très poussiéreuse du recruteur qui est un interrogateur, hein, finalement, qui va poser que des questions, qui répond très peu, quelque chose de très déséquilibré, finalement, comme échange. Moi, depuis le départ, je fuis ça. Et donc, oui, moi, j'ai aucun scrupule, problème à dire à la personne qui est en face de moi, je maîtrise pas ce sujet. J'ai cru comprendre que, je suis preneur d'explications, de corrections éventuellement pour mieux comprendre. Et je me rends compte autant. Alors au début, oui, c'est un aveu un aveu de faiblesse éventuelle. Mais par contre, bah derrière la personne en général apprécie qu'on ait fait l'effort de l'expliquer et va aimer pouvoir en parler davantage. Donc c'est une approche bien plus saine que de se poser comme le sachant alors qu'on l'est pas. Et en général c'est quelque chose que les devs en particulier détestent. Se faire évaluer sur des sujets techniques par quelqu'un qui n'est pas technique, typiquement on coche les cases sur un papier sans comprendre les réponses, c'est un signal négatif assez fort en général en entretien. Donc ouais, je suis partant et je suis comme toi. J'aime beaucoup dire bah j'ai compris peut-être partiellement. Je suis preneur d'explications pour mieux comprendre.
Ah puis t'as raison. Je te regarde rien que la différence entre eux. Je me rappelle à l'époque là, ça va sembler vraiment old school mon affaire là, parce que ça va tellement vite en tech les frameworks à changer puis les modes de framework. Mais à l'époque, je me rappelle que j'étais au début de mes compréhensions dans tout ça, puis si je me trompe pas, il y avait 45 versions d'Angular JS à l'époque comme framework, puis il y a Angular 2 qui est sorti, puis là oui. J'avais bien compris qu'il y avait une histoire avec TypeScript vs JavaScript, mais je devais évaluer les candidats sur leur aisance avec Angular 2. Sauf que il y a une différence entre dire à quelqu'un: peux-tu me donner un exemple? Dis-moi comment tu maîtrises Angular 2. Donc ça, c'est en mode évaluation. Donc là, tu as un mur très fort. VS et je sais pas, Sophie, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Parce que je parle avec plein de candidats, puis il y a deux clans qui commencent à se former. Il y a un clan Angular JS avec du 1.5 et 1.7 et compagnie. Puis il y a un clan Angular 2, puis il y a une scission qui est en train de se faire. Je la comprends pas pourquoi. Pourquoi un dev pencherait plus d'un côté que de l'autre? Et là, elle va m'expliquer pourquoi, mais en m'expliquant pourquoi, je vais être capable d'évaluer si elle a bien compris l'outil qu'elle utilise et si elle est efficace avec. Donc, en fait, t'évalues, comme t'as dit, c'est la meilleure manière d'évaluer la je cherche le mot français pro efficient, l'efficacité, ou en tout cas l'habileté. Mmh. Ouais. Donc, c'est un bel outil caché, ça, je trouve, pour le recruteur.
Ça marche très bien et je suis 100% d'accord avec toi. Je le fais régulièrement, demander l'avis, en fait, de la personne sur un sujet qui me semble peut-être clivant, parce que c'est souvent le cas, en fait. Pourquoi est-ce qu'on préfère React, JS à Angular ou Vue? Ben, en fait, il n'y a pas une vraie réponse. Il y a des avis en fonction des contextes, de l'usage, etc. Mais c'est intéressant. Je considère que aussi, un bon développeur va se poser la question, se dire bah ok, pourquoi est-ce que je préfère React par rapport à Angular? Bah même s'il a un avis, il va peut-être avoir aussi des contre-arguments, et c'est ça qui est intéressant dans un contexte d'entretien de recrutement, c'est d'être capable de prendre du recul sur les outils, sur les devs et tout ça.
Je sais plus si tu m'as parlé, c'était pas officiel là, on était hors podcast, mais tu me parlais de mimétisme. Oui. Puis le mimétisme aussi. C'est important, mais ne dis rien, parce que je me rappelle très bien de prendre des bouts de phrases qu'un dev m'avait dit sur, par exemple, Angular 2, puis de le ressortir à un autre candidat pour lui dire « j'ai entendu que blablabla, qu'est-ce que t'en penses ?» N'est-ce pas ?
Je fais exactement pareil. Et effectivement, alors parfois, je me dis « mince, est-ce que je suis pas en train de faire juste du théâtre et tout ?» Mais non, c'est clair, on peut pas tout savoir, on n'a pas la science infuse, donc moi, j'apprends beaucoup des autres aussi en échangeant, et puis forcément à force d'entendre les choses au quotidien, chaque entretien on intègre des choses. Alors les formulations vont peut-être évoluer au fur et à mesure, mais je pense que, et en tout cas c'est comme ça aussi que je fonctionne, je fais beaucoup éponge, et c'est presque une force, parce que du coup mon discours en entretien il sonne tech, même si bon, moi, je peux pas aller dans le micro détail. Si vous voulez me parler, ok, c'est quoi la ligne de commande Linux pour faire ça? Bon, bah c'est, je suis perdu. Bon, par contre, parler de concepts vulgarisés, ça j'y arrive, et j'arrive à comprendre une réponse vulgarisée aussi du coup.
Et en parallèle de tout ça, mettons. Donc ça, c'est une des astuces principales qu'on donnerait, c'est apprendre de l'autre, puis poser des questions, demander de l'aide. Puis c'est une grosse portion, je trouve, hein, de l'équation. Ah, on met ça de côté. Quelle autre chose tu recommanderais, toi, à un recruteur? Puis qu'est-ce que tu as fait toi-même à part ça? À part, évidemment, lire des articles, tu sais. Évidemment, c'est une réponse facile. Mais y a-t-il d'autres choses qui t'ont vraiment boosté en termes d'apprentissage? Que tu dis, si j'avais à refaire ou à repartir dans un domaine que je connais pas du tout, je ferais ça.
Ouais. Je pense qu'il y a une question d'organisation qui est importante dans le sens où il faut créer un rituel, je pense. Quand on veut s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, d'apprentissage en continu, il faut pas que ce soit du one shot. On peut à tout moment, ok, lire un article, c'est sympa, machin, mais c'est une fois et on n'en fait rien, on capitalise pas dessus. Là où ça devient intéressant pour évoluer dans sa façon de faire, peut-être sur d'autres fonctions, d'autres métiers, c'est d'instaurer une certaine récurrence. Et ça, je pense que la base, c'est une certaine discipline. Moi, ce que j'avais fait au tout départ, c'est de me bloquer un créneau, tout simplement, dans mon agenda. Alors, on l'a peut-être tous plus ou moins fait, et surtout pas respecté, ce créneau-là. Faut vraiment se dire, ok, c'est un créneau, il y a personne qui peut me déranger sur ce créneau-là, il est dédié à ça et à rien d'autre. Et après, par contre, il faut être ouvert sur la fréquence, sur la durée du créneau, qu'est-ce qu'on va en faire. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé à passer un certain cap, c'est d'aller au-delà juste de la connaissance et de trouver une application concrète à ce que j'ai lu, vu, etc. et comment je le mets en application. Et c'est là où on commence à transformer des connaissances en skills et c'est là où on progresse dans son rôle. Donc, effectivement, il y a cette phase de mise en application. Alors, bien sûr, il y a plein de d'objections possibles. Ben oui, dans mon job, j'ai pas la liberté pour le faire. Mon manager est pas d'accord ou on n'a pas tel outil, etc. Je pense que des objections, on peut en trouver des centaines. Il faut oser. Ouais. Oser. Peut-être un petit conseil que moi j'ai suivi. Peut-être que les managers vont pas aimer entendre ça, mais n'attendez pas les approbations en fait. Faites dans votre coin et quand ça marche, dites-le. Et puis bah voilà. Mais j'ai beaucoup attendu à demander l'autorisation pour faire telle ou telle chose différemment de ce qui se faisait. Et on m'a dit, bah non, je me rappelle, une des premières fois, j'étais encore en alternance à ce moment-là. Ça faisait quelques mois que j'avais commencé mon contrat. Et j'avais dit à ma responsable, qui était la DRH du groupe, je disais, bah, moi, j'aimerais bien faire différemment, parce que ça me paraît un peu dépassé, ça. Et elle m'avait répondu quelque chose un peu du style, bah écoute, commence par apprendre comment on fait maintenant, et tu feras à ta manière plus tard. Bon, bah, j'ai mangé un peu mon pain noir pendant quelques temps, mais ça n'a pas duré très très longtemps. En fait, même avant la fin de mon alternance, j'ai commencé dans mon coin à faire un peu différemment. Je voyais que ça marchait beaucoup mieux et j'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Et bah, j'ai fini un jour par lui dire, bon, bah, j'ai essayé, ça marche, est-ce que tu valides? Et puis, bah, oui, elle a validé, forcément. Donc, ça, ouais. Ce serait peut-être mon petit tips pour passer ce cap, de pas attendre que, oui, on nous laisse la possibilité de le faire, faites-le et demandez après validation.
Ah, c'est super bon comme conseil, j'avoue, parce que de toute façon, c'est tellement plus simple après de démontrer pour avoir la validation ou quoi que ce soit. VS, effectivement, ça peut être un peu flou pour quelqu'un, puis la réticence au changement, elle est partout, hein. C'est très humain. Donc, t'as raison, genre, vas-y, fais-le, teste-le, puis montre. Montre les résultats. Après, avec des résultats, des chiffres sous les yeux, c'est moins facile de dire non. Parce que t'as une évidence. C'est plus juste du théorique, quoi.
C'est ça.
Ouais, ça fait beaucoup de sens, énormément. Puis, est-ce que tu te rappelles, juste par curiosité, t'as été quoi le truc le plus difficile que t'as eu à recruter, ou le poste, ou le domaine, ou peu importe, que t'as eu à recruter parce que, justement, c'était un champ de compétences complètement différent. As-tu souvenir de ça? Ben, ça date, ça fait 7 ans quand même. Hein, mais
je l'ai eu vraiment beaucoup de fois, ce cas, parce qu'en général, bah, quand on fait appel à moi en tant que chasseur spécialisé dans la tech, c'est parce que bah, le client n'a pas réussi tout seul à recruter, c'est parce que on va vouloir trouver une licorne ou un mouton à 5 pattes. Donc oui, ce cas de figure, je l'ai régulièrement. C'est aussi ce que j'aime bien, en fait, hein, paradoxalement, dans ce métier, c'est... me confronter à des sujets que je maîtrise pas, où je suis obligé de monter en compétence assez rapidement d'ailleurs en plus, et bah, que ça marche. Donc c'est souvent pour des profils tech, effectivement, bah, souvent sur des métiers qui sont nouveaux sur le marché et en France qu'on retrouve pas énormément, et donc les rares qui maîtrisent déjà ces compétences sont ultra sollicités. Donc ouais, je me rappelle avoir eu le cas il y a quelques mois avec un profil qui devait cumuler des compétences DevOps, SysOps, CloudOps et cybersécurité. Tout ça dans une startup. Bon, j'ai réussi, mais il m'a fallu un petit temps d'adaptation, de reformulation aussi pour bien comprendre qu'est-ce qu'on mettait derrière ces termes-là. Parce qu'effectivement, quand, sans aller dans le jargon technique, mais on parle de full stack, on parle de DevOps, etc. Là, on parlait de SysOps. Donc, c'était la première fois que j'entendais le terme. Et en discutant, je m'étais dit, est-ce que ça ressemble à ce que je connaissais il y a quelques années en arrière, tout ce qui était administration, système et réseau. C'était quand même quelque chose de très différent. Donc oui, il y a une phase d'exploration finalement, d'itération aussi. Bah ok, j'ai trouvé ce profil-là. Est-ce que ça match par rapport à ce qu'on recherche, etc. Et je pense que l'itération aussi, c'est un point important dans le recrutement. On peut pas, ou c'est rare les cas où on trouve le perfect match du premier coup. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour ajuster, mais il faut prendre du feedback à chaque fois pour progresser.
Donc ça, ouais, le feedback, carrément. Ouais, le feedback a absolument. Puis même, c'est souvent pour la même raison qu'on a peur de demander à un candidat d'expliquer pour perdre en crédibilité. J'ai entendu souvent des recruteurs ne pas oser creuser avec le gestionnaire pour la même raison. De dire, j'ai peur que ça démontre que je comprends pas ce qu'il fait, puis qu'il me fasse pas confiance, puis qu'après ça, quand je recommande des candidats, il me fasse pas confiance dans mes recommandations, mais pas du tout. Le gestionnaire, c'est ta première source facile d'information. C'est son expertise. C'est ce qu'il fait au quotidien. J'irais même plus loin, si tu dois pas quitter ta prise de besoin, ton kick-off, peu importe comment tu l'appelles, si tu peux pas quitter cette rencontre avec ton gestionnaire en ayant trop de questions ou trop de flou, c'est pas normal. Quitte à refaire une rencontre pour que tu repartes à la planche à dessin, puis que tu lui dises, bon, regarde, je t'allais regarder ça, je comprends pas. Mais faut vraiment aller chercher le gestionnaire pour rentrer dans sa tête, puis aussi t'en servir, même si t'es capable de booker une rencontre avec lui, ou de, pendant la rencontre, faire un premier benchmark de candidat, puis de lui montrer des profils, et de lui dire qu'est-ce que t'en penses de lui, selon ce que j'ai compris, ça fitterait, oui ou non. Faut aller chercher ce feedback-là, puis c'est là que tu vas te différencier aussi.
Absolument, absolument, et j'irai peut-être même un peu plus loin, faire cet effort de questionner, de reformuler, c'est aussi l'aider lui dans sa compréhension de ce qu'il recherche, de la formalisation de son besoin. Et parfois, on a des surprises, des clients qui vont dire « Ah bah mince, ouais, t'as raison, je pensais plutôt chercher ce profil-là, mais maintenant que tu m'as expliqué peut-être comment était le marché, oui, en fait, t'as raison, c'est peut-être plutôt ce profil-là qui matcherait bien avec mon besoin. » Et je pense que c'est là qu'est la valeur ajoutée d'un recruteur, d'une recruteuse, c'est cette approche de conseil qui parfois manque quand même. On va aller trop vite en besogne et absolument closer le deal en envoyant un maximum de CV, etc. Alors qu'en fait, il faut aller peut-être juste passer une demi-heure de plus à échanger avec le manager, mieux comprendre les attentes, commencer aussi à préparer à ce qu'il allait peut-être voir comme type de profil. Et moi, j'ai closé beaucoup de missions comme ça, justement, avec peut-être 2, 3, 4 candidats présentés. Mais j'avais fait l'effort en amont de préparer le terrain, d'expliquer la démarche qu'on allait faire au fur et à mesure. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Et moi, je prends beaucoup plus de plaisir à travailler comme ça. Et on s'épuise pas à faire des centaines d'entretiens, envoyer des CV qui sont refusés dès le départ parce que, on est allé trop vite, donc on n'a pas compris des choses essentielles. Donc cet effort de bien comprendre le besoin initial, c'est... pour moi, c'est le premier step. En fait, il y a pas à chercher. Il faut passer par là pour faire quelque chose de quali.
Dire je ne sais pas et je ne suis pas sûre aussi. Quand on voit un candidat au gestionnaire, pour moi, ça fait partie de l'apprentissage continu, parce que quand tu laisses une porte ouverte à je ne suis pas sûre, généralement, la porte va être prise par le gestionnaire pour venir infirmer ou confirmer ton doute. T'es pas obligé de tout savoir sur un candidat, par exemple. T'es pas obligé d'être certain qu'il coche toutes les cases. Oui. Par contre, pour moi, t'es obligé de dire que tu n'es pas sûr. Dans le sens où si tu laisses un blanc, un flou, ça peut porter à confusion le gestionnaire qui se dit, il a pas compris. VS, si tu dis, ça, je suis pas sûr, faudrait que tu creuses un peu plus, c'est correct, il va aller le creuser, puis il a compris que tu as spoté l'endroit où il manquait peut-être un petit bout, puis que, tu sais... Fait que ça fait partie aussi pour moi d'un facteur clé pour pas se retrouver non plus dans la situation que tu craignais, c'est-à-dire celle où le gestionnaire a la perception que tu ne comprends pas, alors que c'est pas que tu comprends pas, c'est que t'es allé chercher l'information mais t'es pas en mesure de la mettre en relation avec ce que le gestionnaire a besoin. C'est pas que tu comprends pas là.
100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Et faut pas oublier que finalement, notre travail, c'est de gérer de l'humain, du relationnel, et donc quelque chose qui peut être potentiellement très subjectif, même si on essaye de l'objectiver au maximum pour prendre des décisions éclairées. Mais du coup, il y a énormément de biais qui peuvent s'instaurer dans un échange, ne serait-ce que l'humeur du jour. Bon, bah, on était peut-être fatigué ou pas dans l'entretien et on a peut-être eu des petits signaux faibles, mais sans vraiment déterminer quoi. Je trouve que ça fait partie pour moi de l'approche conseil, d'être capable de dire, ok, bon, bah, j'ai identifié ça, j'ai pas réussi à déterminer si oui ou non, si c'est bloquant ou pas, mais voilà, c'est un point d'attention. Il faut le balayer à nouveau, peut-être avec un autre angle d'approche, le confirmer ou pas, mais c'est aussi ce que j'essaye de faire au maximum. L'idée, c'est pas de répéter ce qui est déjà écrit sur un CV, c'est de donner du contexte. Et tout ce qu'on peut ajouter, finalement, qu'on veut alors ajouter, c'est notre expertise de comprendre, bah, finalement, oui, les comportements relationnels, humains, parfois, alors, à la limite de l'interprétation, faut pas aller trop loin sur l'interprétation quand même, mais là, je fais référence à tout ce qui va être un peu CNV, communication non verbale, etc. Il y a beaucoup qui vont peut-être un peu moins dans, ok, il a passé son entretien à croiser les bras, dans, il est pas bon, il faut pas le prendre. Non, bon, il y a des limites, bien sûr, mais il y a des signaux faibles, et parfois, c'est pas facile de conscientiser, je sais plus, ces signaux. Mais il y a quelque chose, comme un gut feeling, et peut-être qu'avoir un deuxième avis permet de confirmer ou pas cette première impression.
Tu l'as bien dit, notre expertise, c'est trouver, convertir, convaincre, guider, soutenir, aller chercher. Notre expertise, ça n'est pas d'évaluer techniquement un candidat. Ça, je le répète tout le temps. Le client, c'est toi, monsieur le client, c'est toi l'expert de l'évaluation. Moi, je suis là pour t'amener quelqu'un assis sur une chaise, préqualifié, qui a l'air pertinent, qui a l'air de fitter. Ton expertise à toi, c'est de l'évaluer puis de le convertir en tant qu'employé. Je vais t'aider dans la conversion parce que je vais être présent dans la relation, puis je vais faciliter certaines choses, je vais te lever des flags que tu aurais peut-être pas vu dans la relation avec la personne. Mais faut jamais se sentir mal de ne pas avoir la capacité d'évaluer techniquement aussi bien un candidat que le gestionnaire ne le ferait, parce que c'est son métier à lui.
C'est marrant ce que tu dis, parce que c'était mon premier objectif. D'amélioration quand j'ai commencé à faire du recrutement, je voulais être capable d'être autonome et de me passer d'un évaluateur technique pendant mes entretiens. Et donc j'ai commencé à faire ma veille sur les technos, etc. Et j'ai même changé de boîte pour aller dans un contexte beaucoup plus technique et où mon périmètre serait focus sur de la chasse de profil de dev, parce que je voulais être capable d'évaluer un dev à la place d'un autre dev. Et donc pendant un peu plus de 6 mois, j'ai veillé assez intensive et je me suis finalement rendu compte que c'était utopique comme objectif, parce que même des devs expérimentés ne sont pas toujours capables d'évaluer un autre dev, parce que ça évolue très vite, parce que c'est des domaines qui sont parfois très très différents les uns des autres, et parce que il n'y a pas une seule façon de faire en fait. Et c'est là où c'est illusoire de se dire, ok, tu fais du Java, donc voilà, il y a une façon de faire du Java. Non, absolument pas. Derrière, c'est quand même de la conception, c'est un raisonnement, une logique, notamment. Et oui, peut-être l'outil est similaire, mais la façon d'utiliser elle peut être justement propre à chaque personne. Donc finalement, ouais, c'était juste pour faire écho à ce que tu disais, il faut pas vouloir être, pas si la référence parlera à tout le monde, mais is no good, vouloir être le calife à la place du calife. On est, comme tu dis, on est là pour faire un premier filtre, s'assurer qu'il y a un bon début de matching, notamment sur la partie technique, mais on peut pas être le garant que la personne, elle est parfaite pour le rôle, elle est opérationnelle, etc. Il faut d'autres avis, et je pense que c'est important de le dire au départ, parce que parfois, même le manager qui va recruter n'est pas capable de dire si la personne techniquement est bonne. Et donc, c'est important de s'entourer de personnes qui sont capables, au fur et à mesure, soit toute seule, soit avec d'autres personnes, de confirmer.
Ouais. Ça enlève un, enlève un poids sur les épaules, là. Fait que déjà, c'est déjà super bon. Est-ce que, Mathieu, pour terminer notre échange, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, conseiller, si tu devais t'adresser aujourd'hui à un recruteur qui nous écoute, peut-être qu'ils sont dans cette phase d'amélioration continue, ça, puis on l'est tous, hein, peu importe le niveau de seniorité, mais mettons un petit clin d'œil particulier à ceux qui découvrent un nouveau domaine, qui se lancent dans quelque chose d'inconnu, un dernier conseil de ta part pour ces gens-là.
Je dirais que pour moi, cette partie de formation, d'apprentissage, c'est une des clés pour échapper à la routine, pour aussi se créer des perspectives d'évolution et pas s'enfermer dans un quotidien dans lequel on finit par s'ennuyer. Et bah, à force de s'ennuyer, on change, soit d'entreprise, soit même de job. Le recrutement, c'est quand même un secteur très dynamique, où il y a énormément de choses possible, et il y a plein de façons de faire différentes. C'est ce qui m'a attiré au départ, c'est ce qui me plaît toujours aujourd'hui, c'est que cette discipline, elle est pour moi la rencontre entre peut-être HR, commercial, communication, psycho, marketing, opérationnel. Et finalement, chacun avec son filtre, son background, sa formation initiale, va avoir une façon différente de faire ce métier. Et c'est ça qui est top. Et donc, au fur et à mesure de sa carrière, on peut évoluer en cherchant des skills dans d'autres domaines. Ça peut être, en ce moment, c'est très à la mode tout ce qui est automation, no code, etc. Peut-être que demain, ce sera complètement autre chose. Mais ça permet de se diversifier et je crois que c'est quelque chose qui est très important pour garder un peu cette envie et ce plaisir à faire ce métier-là. Parce qu'un recruteur qui est contraint de faire son métier, ça se ressent en entretien, ça se ressent sur ses performances, et en général, ça dure pas très très longtemps en fait.
J'adore ce que tu dis. C'est une excellente conclusion. Effectivement, c'est la seule. Franchement, tu m'as coupé le sifflet, comme on dit. C'est très vrai ce que tu dis. Puis, c'est quoi, je vais me permettre de le partager à l'équipe parce que des fois, on a des périodes un peu plus rough parce qu'on a l'impression de faire toujours la même poutine, puis de tourner en rond. Puis, ça veut pas dire que. C'est un petit peu plus le cas des fois dans les postes un peu plus volumiques. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que la manière de briser la routine, c'est apprendre, découvrir. Comme tu dis, il y a plein d'aspects différents. Donc, si tu veux te pousser un peu plus côté marketing, tu peux en recrutement. Si tu veux y aller plus côté vente, tu peux. Et que de créer ton propre chemin, là, j'aime beaucoup ça. Merci, Mathieu, de nous avoir partagé tout ça.
C'était un plaisir, Charles.
Je vais laisser tes coordonnées dans la publication ou les publications si les gens veulent te poser un peu plus de questions. Mais vraiment, merci
Volontiers.
d'avoir participé à tout ça.
Et ça m'a fait vraiment plaisir et au plaisir de réitérer l'expérience.